à l'écoute de l'émission interactive de VOA Afrique à votre avis. Nathalie Barge avec vous dans les studios de La Voix de l'Amérique à Washington. Selon la nouvelle constitution gabonaise approuvée par référendum le 16 novembre 2024, le service militaire est obligatoire pour les hommes et les femmes. Plusieurs pays ont instauré le service militaire obligatoire également pour les femmes, comme la Norvège, dans le cadre de sa politique d'égalité des genres, Israël, la Corée du Nord et l'Érythrée. Que pensez-vous de cette initiative? Selon vous, faut-il rendre le service militaire obligatoire pour les hommes et les femmes? À votre avis, faut-il plus de femmes militaires de carrière dans les armées nationales? Quels en seraient les avantages pour les pays? Ce sont des questions que nous allons nous poser ce soir avec nos auditeurs. Quelques commentaires aussi de femmes leaders. Nous avons comme invité Dr Leila Ndiaye, qui est présidente de LND Global Network, experte en affaires africaines et relations internationales, qui a notamment suivi une formation diplômante à l'Académie militaire américaine West Point sur le leadership des femmes en première ligne. Leila, bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous.
Bonsoir Nathalie, c'est un plaisir.
Alors, on précise juste au passage qu'en ce moment vous êtes à Abidjan, hein, vous êtes normalement donc domiciliée à Washington, ici aux États-Unis avec nous. Et Leila, vous aviez pensé donc faire carrière dans l'armée. Vous êtes passée donc, il me semble, hein, par West Point. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de ce début de carrière en quelque sorte?
Ben, merci beaucoup Nathalie depuis Abidjan. Et bonsoir à tous les auditeurs. J'ai rêvé quand j'étais jeune, hein, toute jeune, de devenir militaire. Je ne suis jamais devenue militaire. Mais quand j'ai rejoint la Chambre de commerce des États-Unis en tant que directeur principal de politique africaine, on s'entend, j'avais la possibilité de faire des formations. Une à Harvard, et on m'a proposé deux formations, une à Harvard sur le leadership et une autre à West Point. Et étant civile, donc c'est une formation pour les civils, je tiens à le préciser, je me suis dit, bon, Harvard, c'est difficile de rentrer dans le programme, mais encore plus difficile pour West Point. Et j'ai choisi West Point pour ma passion. La passion que j'ai toujours eue depuis enfant pour l'armée, parce que je considère que c'est un métier noble, un métier très noble, et très peu de personnes, c'est une vocation, un sacerdoce. Et j'ai beaucoup appris de ma formation à West Point, et je peux dire que cette formation a largement contribué à la personne que je suis devenue aujourd'hui.
Mmh. Alors c'est ce qui est intéressant et qu'on va revenir là-dessus un petit peu plus tard. Tout d'abord, Leila, écoutons Marie-Louise Musenga Mafo. Elle est entrepreneure sociale en République démocratique du Congo. Elle est de la province du Lualaba.
La question sur la féminisation de l'armée est une question capitale qui répond aux objectifs horizon 2030, 50-50. Nous ne devons pas seulement attendre dans nos pays que les femmes occupent que les postes dans la politique. Les femmes doivent occuper, doivent inonder tous les secteurs de la vie. Elles doivent le faire aussi dans l'armée pour mieux gérer l'armée et la police avec elles. Parce que vous voyez, tous les chefs de guerre ont l'armée avec eux, avec la police. Alors, une femme aujourd'hui qui se voudrait briguer le mandat de la présidence de la République, de la haute magistrature de la République, et doit aussi avoir tous les rudiments de l'armée. Donc la femme aujourd'hui, nous ne pouvons plus empêcher d'être dans l'armée. Donc cette politique ne répond qu'aux objectifs de l'horizon 2030-50-50. Bien sûr, leur parcours pour les unes peut poser problème parce qu'elles n'ont pas été suffisamment formées, elles n'ont pas accédé à tous les grades, mais en Afrique, nous avons aussi dans notre pays, des femmes qui ont des grades généraux. Alors, en ce moment, nous souhaiterons seulement que les femmes soient des chefs d'état-major dans l'armée, qu'elles soient chefs dans l'armée au niveau des forces navales, des forces terrestres, des forces aériennes. En ce moment-là, nous allons bien accompagner nos pays.
On était en République démocratique du Congo. On se rend tout de suite au Togo, à Lomé, pour écouter un auditeur de VOA Afrique, c'est Latif.
Si dans la nouvelle constitution gabonaise approuvée par référendum, une grande majorité des Gabonais a estimé que les services militaires indiqués pour leur pays, moi je ne pourrais que prendre acte. Peut-être que le service militaire va renforcer le civisme et le patriotisme de la jeunesse gabonaise. Seulement, il faudrait qu'on fasse en sorte que ceux qui n'auront pas embrassé la carrière militaire à la fin de leur service militaire ne basculent pas dans les braquages et autres. Car si certains pays ont dû renoncer au service militaire, entre autres raisons qu'ils évoquent, hormis le fait qu'ils jugent budgétivore et improductif, ils estiment également que la plupart des braqueurs qu'on arrêtait étaient justement ceux qui ont appris le maniement des armes lors de leur service militaire. Merci Léo Afrique, bonne émission à vous.
Alors, Leila Ndiaye, vous avez dit tout à l'heure finalement que c'est cette formation, notamment à West Point, hein, dans cette académie militaire américaine, qui a fait ce que vous êtes aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que cela apporte finalement, ce type de formation, justement, pour la personne elle-même? En quoi cela vous aide dans votre vie de tous les jours, professionnelle et personnelle?
En termes de leadership, d'abord, et puis il faut savoir que quand on a une formation militaire, moi je suis civile encore une fois, j'ai eu une formation de renforcement de capacité, je peux vous dire, les militaires ont une éthique à nulle autre pareille, des us et coutumes, hein, qui distinguent le militaire du commun des mortels. J'ai appris de mes professeurs, et dans mes professeurs, il y avait des femmes qui ont été générales donc, de l'armée américaine, et leur parcours m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup inspirée, et qui font de moi aujourd'hui ce que je suis. Par contre, Nathalie, si je peux vous permettre, je voudrais rebondir sur les commentaires des deux invités par rapport à la place de la femme africaine, si je comprends bien, dans l'armée. Et je trouve qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on repense au passé. Parce que l'Afrique a eu des armées composées de femmes. Je fais référence ici aux Amazones.
Oui, oui, absolument.
Aux Amazones,
oui, on connaît.
Au 19e siècle. Ce n'est pas un fait nouveau. L'Afrique a peut-être regretté. En ce sens où elle n'a pas continué à former les femmes dans ce métier noble, encore une fois, je répète, mais ce n'est pas une chose nouvelle. L'Afrique devrait peut-être repenser ce modèle, pas le calife verbatim, et puis comme les Amazones, il y a eu quand même certains manquements, mais c'était un corps d'armée composé de femmes, de 5000 guerrières, avec deux corps principaux, un bataillon composé de 5 catégories de combattantes, etc., et qui ont effrayé, si on veut dire en son temps, les forces étrangères.
Ouais. Alors justement, on va revenir aussi sur
et
ces questions.
Mmh.
Aujourd'hui, en fait, ce qui intéresse peut-être un petit peu plus certaines femmes, c'est qu'on a entendu tout à l'heure Marie-Louise parler que maintenant il faut des femmes chefs d'état-major. Hein, je crois que le point est là en particulier. On a énormément de femmes qui font carrière dans l'armée, mais faut-il encore qu'elles soient à des postes justement à responsabilité? Écoutons Sandrine Lusamba, qui est coordonnatrice de Sophie Paddy, une ONG qui s'occupe de la protection des femmes victimes de violences en République démocratique du Congo.
C'est un sujet très intéressant du moment où nous voulons que les femmes puissent occuper des postes de responsabilité au niveau de la police, de l'armée, mais aussi des services de sécurité. Il est important que nos pays puissent avoir un programme bien défini, beaucoup plus pour renforcer le civisme et la discipline. Je prends l'exemple du National Youth Service au Nigeria. Ce n'est pas un service armé, mais à un moment du cursus universitaire, c'est un service qui permet à développer le civisme, je crois, mais aussi à renforcer une forme de discipline à un certain niveau du cursus universitaire. Moi, je pense que ce sont des services déjà de départ que le pays comme le nôtre peuvent adopter parce qu'aujourd'hui, l'accès au service militaire, il n'est pas limité pour les femmes, mais seulement c'est la qualité de ces personnes, des hommes et des femmes qui accèdent à l'armée qui n'est pas bonne. Personnellement, il y a des cas où ce sont des gens qui ont raté leur éducation et qui pensent que l'armée, c'est la poubelle. Donc, je pense que les pays comme le nôtre doivent avoir un programme déjà à un niveau du cursus scolaire ou universitaire qui renforce le civisme et la discipline, mais aussi encourager à présenter l'importance, mais aussi ce qu'on gagne en étant dans les services militaires. Il y a beaucoup d'informations qui ne sont pas partagées, mais ce que les femmes voient avec les yeux, ça n'encourage pas. La qualité de vie, la qualité de salaire, la qualité de la vie quotidienne. Nous avons eu à échanger avec certaines jeunes femmes qui nous citaient les difficultés, même les enfants des militaires qui regrettent d'être nés enfants des militaires. Donc moi, je pense que c'est un sujet intéressant pour que nos pays puissent réfléchir sur comment déjà construire la base avec des services à l'instar du Youth National Service du Nigeria.
Et on reste en République démocratique du Congo pour écouter à présent Caroline Pindinora.
Pour moi, c'est une bonne chose, c'est une très bonne résolution parce que il n'y a pas de raison qu'on mette les femmes de côté lorsqu'il s'agit de services militaires. Puisqu'on parle d'égalité des droits, d'égalité des chances, c'est tout à fait logique que même les femmes puissent faire des services militaires. Et le rendre obligatoire, c'est également une bonne chose parce qu'en fait, moi j'ai toujours pensé que faire le service militaire, en fait, augmente ou crée ou engendre ce sentiment de patriotisme dans le cœur de la personne. Donc pour moi c'est une très bonne chose et je pense que ça devrait d'ailleurs être le cas pour tous les pays d'Afrique, pourquoi pas, et même tous les pays du monde. C'est une très bonne chose que les femmes aussi s'investissent dans tout ce qui est sécurité, tout ce qui est militaire, policier, tout ça. Donc pour moi c'est une très bonne chose. J'aimerais que ce soit la même chose aussi pour ici en République démocratique du Congo et j'espère que ça sera le cas d'ici là.
Leïla Ndiaye, vous avez entendu tout à l'heure Sandrine Moussamba dire hein, ce que voient les femmes et les deux républiques démocratiques du Congo. On connaît la situation là-bas, notamment dans l'est du pays, hein, où il y a donc la violence armée. Et elle a dit donc que les femmes n'étaient pas vraiment attirées par rapport à ce qu'elles voient de l'armée. Elles n'ont pas vraiment envie de s'enrôler dans l'armée. Alors la question serait la suivante, effectivement, comment redorer finalement le blason de certaines armées? On sait tout de même qu'il est... bon. Peut-être plus, on va dire, plus avantageux d'être dans certaines armées comme l'armée américaine, peut-être par rapport à, je ne sais pas, l'armée somalienne. En tout cas, les armées africaines, on ne les envie pas vraiment. Donc, comment attirer les femmes dans les carrières militaires, selon vous ?
Ben, selon moi, déjà, il est important hein, de rappeler, parce que dès le début de l'émission, je ne fais que dire hein, que c'est une vocation et c'est un métier noble. Défendre sa patrie, c'est pas donné à tout le monde d'avoir cette vocation, de la même manière que c'est pas donné à tout le monde d'avoir la vocation de devenir prêtre. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Et donc, là, en ce qui concerne nos armées en Afrique, surtout dans les pays qui sont en pleine guerre, comme la RDC, donc la dame faisait référence tout à l'heure, il est évident que la femme, une femme qui voit ce qui se passe, n'est pas forcément envie de rejoindre l'armée. Et c'est pour ça que je pense qu'il est important que les gouvernements réfléchissent vraiment sur les mesures d'intégration de la femme dans l'armée. D'abord, un, faire comprendre à la femme que c'est un métier noble, et de deux, prendre en compte différents aspects, parce qu'on sait très bien que la femme ne perd pas au même niveau psychologiquement, biologiquement et socialement que les hommes. Donc, quels sont les programmes qu'on pourrait mettre en place? Il y a une intervenante qui a parlé de l'instruction civique au Nigeria, qui est un bon exemple qui pourrait encourager les femmes à rentrer dans l'armée, etc. Alors, je peux vous dire une chose. Quand vous voyez les États-Unis, le service militaire n'est pas obligatoire pour la femme, et il y en a dans d'autres pays. Vous avez beaucoup plus de femmes qui adhèrent quand le service n'est pas obligatoire que quand il l'est. Mmh. Et les raisons pour lesquelles ces femmes adhèrent, c'est justement parce que il y a cette question de patriotisme qui est inégalée, et aussi les avantages liés à la formation quand la femme embrasse ce métier, et les différents corps de métiers qui lui sont offerts, pas simplement être au combat. La femme peut être médecin, militaire. En Côte d'Ivoire, nous avons eu une dame, père son âme, qui est décédée, je pense, il y a 2-3 ans, qui a été générale, mais médecin. Je pense que c'est l'une des premières femmes que nous avons eues, générale dans l'armée
ici en Côte d'Ivoire. Donc ce n'est pas impossible. Et j'espère qu'un jour on aura une femme chef d'état-major des armées. Bien évidemment, mais il faudrait encore qu'il y ait tous les paramètres, que tous les paramètres soient réunis pour encourager la femme à épouser ce genre de carrière et aller jusqu'au bout.
Restez avec nous.
Parce que, encore une fois, ce n'est pas étranger à la femme africaine, parce que nous avons dans notre histoire et dans les archives les Amazones.
Alors, Lengandia, restez avec nous. On va rester en République démocratique du Congo pour écouter Christian Politassi. Il est à Kinshasa, c'est un auditeur de VOA Afrique.
Rendre le service militaire obligatoire est une bonne option, mais cependant, il faudrait remplir un certain nombre de prérequis. Notamment, il faut une justice impartiale et neutre, et il faut penser à la création de l'emploi. De sorte que ces jeunes, après la formation, qu'ils aient au moins un emploi rémunérateur. Cela leur permettrait d'éviter de s'adonner à la commission des infractions, parce que un militaire affamé est un danger pour la nation, et un bon manipulateur des armes sans argent est un danger pour ses concitoyens. Mais dès lors que ce dernier sera quand même capable de nouer les deux bouts du monde, il ne se permettrait en aucun cas de se livrer dans des actes de vandalisme. Autre chose, il faudrait une justice indépendante pour réprimer toute infraction commise par quelqu'un qui issu d'une formation militaire. Et cela permettrait à ce dernier d'avoir un peu des réserves pour poser tel ou tel autre acte contraire à la loi. Parce que si aujourd'hui nous avons des défections dans nos forces armées, c'est parce que ces derniers se sentent un peu négligés. Il n'y a pas une sorte de justice sociale. Si l'on répare cet état de choses, vous verrez que cette formation sera bénéfique pour l'ensemble du territoire national.
On fait un petit tour en Guinée, à Conakry, pour écouter la web activiste Fatoumata Chérif.
De mon point de vue, il est important de promouvoir beaucoup plus de femmes dans les carrières militaires. Les femmes sont malheureusement confinées à des rôles administratifs. Et dans mon pays, par exemple, c'est après 60 ans de création des forces armées que nous avons eu la première femme générale, qui a été promue à l'occasion de la fête du 8 mars 2020 par l'ancien président Alpha Condé. Et après 4 ans, nous avons eu 2 nouvelles femmes promues à des grades de général. Et donc, dans toute l'histoire de l'armée guinéenne, nous avons que 3 femmes générales des forces armées. Et je crois que les promouvoir à des hautes fonctions pourraient démontrer que nous avons une nouvelle vision des forces armées et surtout que nous sommes dans le sens de la mise en œuvre de la résolution 1325 des Nations Unies qui promeut beaucoup plus de femmes dans les questions de paix et de sécurité. Et je crois que de plus en plus de pays devraient faire des efforts pour promouvoir des femmes dans des instances de haute décision dans l'armée. Et que ce soit dans la police, dans l'armée de terre, de mer, que ce soit même dans les éco-gardes, les femmes ont leur place. Alors, quant au service militaire obligatoire qu'a instauré le Gabon et bien d'autres pays dans le monde, je crois que c'est essentiel. Cela va permettre de montrer qu'il y a une certaine équité dans les prises de décision et surtout qu'il y ait plus de femmes qui ont cette volonté en fait de faire la même chose que d'autres hommes. Mais surtout, je voudrais que les femmes se sentent à l'aise, que ce lieu soit sûr et serein pour ces femmes, qu'elles ne soient pas victimes de violences basées sur le genre et que surtout, elles ne se sentent pas dans ce chemin où elles sont obligées de subir en fait pour avoir des grades. Il y a de l'évolution. En Guinée, par exemple, nous avons des femmes qui ont participé au casque bleu au Mali dans les opérations de maintien de la paix. Il y a des femmes qui pratiquent des sports militaires comme le karaté, le judo, qui peuvent faire d'excellentes choses comme des parachutistes et même gérer des navires et tout ce qui s'ensuit. Je crois qu'il faut laisser les femmes s'épanouir dans l'armée.
C'était la web activiste guinéenne Fatoumata Chérif. Je vais citer à présent quelques commentaires de nos auditeurs sur la page Facebook de VOA Afrique. Abbas Soura a écrit, je le cite, « Il n'y a pas assez d'hommes au Gabon, vu qu'on parle d'égalité des genres. Si le service militaire n'est obligatoire que pour les hommes, ce n'est pas bon en cas de conflit. Cela n'est pas mon souhait, mais il faut se préparer à toute éventualité, dit-il. Donc, c'est mieux que le service militaire soit obligatoire pour tout le monde. » Jonathan Saloumou dit, « Ce n'est pas pas bien que ce soit obligatoire, car quelque chose que l'on fait sans passion, on ne le réussit pas toujours. Il y a plusieurs façons d'aider le pays, mais pas forcément militairement, dit-il. Et Trésor dit qu'ils n'auront pas les moyens de faire faire le service militaire à tout le monde, et ils se contenteront des volontaires où ils trieront, et ça finira en favoritisme. C'est par rapport donc au cas du Gabon. Leïla Ndiaye, quels sont selon vous les avantages pour la population qu'il y ait plus de femmes donc enrôlées dans l'armée?
Je vous remercie, Nathalie. Les avantages sont les mêmes pour les hommes que pour les femmes. Qu'il y ait plus de femmes ou plus d'hommes, je pense que telle n'est pas la question, vraiment, parce que rentrer dans l'armée, défendre sa patrie, parce qu'il faut encore comprendre le rôle traditionnel de l'armée, qui est de défendre l'intégrité du territoire national face aux agressions extérieures, afin d'assurer la paix à l'intérieur des frontières, et donc de terroriser les populations à l'intérieur des frontières. Ce n'est pas une question de genre. C'est une question d'avoir des personnes qui sont déterminées, qui, encore une fois, ont cette vocation, je ne fais que répéter le mot vocation, et qui ont une formation équitable. Équitable. Il est certain que la femme peut ne pas, à certains moments, avoir la même formation que les hommes, parce que j'ai utilisé le mot physiologique tout à l'heure, parce que bon, il peut être possible qu'elle ait appelé pour des raisons de santé, voire maternité, avoir à quitter momentanément l'armée avant de réintégrer les rangs, etc. Mais quand on prend nos armées américaines, que ce soit françaises ou américaines et ailleurs, en Occident, ben, la femme a exactement la même formation que les hommes. Donc ce n'est pas une question pour moi de genre, c'est une question de pouvoir emmener les populations, que ce soit les êtres donc de humains, hommes et femmes, à comprendre que l'armée, rejoindre l'armée, c'est un métier noble, et que la femme a sa place, de la même manière qu'elle a sa place dans la société, pour défendre l'intégrité du territoire national face aux agressions extérieures. Telle est la question.
Ouais. Alors, on reste en Guinée pour écouter à présent la cinéaste Isabelle Colcolois.
La question du service militaire obligatoire pour les femmes, ça dépend des contextes sociaux, culturels et politiques de chaque contrée. Mais d'un côté, comme ils le disent, c'est une étape importante vers l'égalité des sexes. Ça va offrir aux femmes les mêmes opportunités et responsabilités que les hommes. Et puis, ça renforce la diversité et l'inclusivité au sein même des forces de l'ordre. Ça apporte également de nouvelles perspectives et des compétences variées au sein de ces mêmes services. Par ailleurs, d'un autre côté, le service obligatoire pour les femmes pose des questions par rapport à certains défis spécifiques, notamment en termes de conditions physiques, en termes de sécurité. Il est important de considérer ces aspects afin que la politique soit équitable, parce que pour moi, ce dont il est question, c'est d'équité, de donner la même chance. Maintenant, de là à le rendre obligatoire, je pense qu'il est mieux de laisser à chaque femme le choix de se faire enrôler dans l'armée ou pas.
On retourne en République démocratique du Congo pour écouter une consultante en genre qui est Faïda Mwangiloua.
Je suis de la RDC, j'estime que cette option est fondamentale. L'armée, c'est le poumon d'un pays. Et nous, par rapport à tout ce que nous connaissons, il est important de rendre le service militaire obligatoire. Vous savez, quand vous approchez les FRDC, quand vous approchez certains officiers, depuis un temps, je travaille avec la cellule genre de FRDC, je comprends que l'ensemble de notre population, en tout cas, ne comprend pas ce que signifie un service militaire. Au niveau d'une armée nationale comme la nôtre, il y a de bons éléments. Et plus il y aura des femmes comme des hommes au sein de nos forces, en tout cas, il doit y avoir absolument un changement. Parce que aujourd'hui, dans nos prisons, existe plus de jeunes gens qui se retrouvent là-bas, pour une raison ou une autre. Nous trouvons aussi qu'il existe beaucoup de groupes armés. Pourquoi ne pas rendre alors le service militaire obligatoire? Comme ça, tout le monde sera discipliné, les gens comprendront ce que signifie le service militaire, et même les politiques, que les dirigeants politiques respecteront les forces armées, nos forces armées au niveau national. Les gens travailleront en toute cohésion et comprendront qu'il faut absolument protéger la nation. J'encourage cela dans le sens de rendre nos services efficaces, parce qu'aujourd'hui, c'est plus les gens, les parents, décident d'envoyer les enfants. Ils estiment que c'est des brigands qu'ils envoient au sein de FRDC. C'est d'ailleurs le service qui doit accueillir des enfants bien éduqués.
Leila Ndiagne, vous avez entendu tout à l'heure, je crois que nous avons eu un auditeur qui a parlé notamment des moyens de l'armée, disant que les services militaires obligatoires, c'était budgétivore et que c'était pour cette raison que beaucoup de pays avaient abandonné. Les moyens de l'armée, c'est bien la question. On est beaucoup en République démocratique du Congo, on connaît la situation de l'armée congolaise, entre autres armées, n'est-ce pas, sachant qu'on a toujours ces plaintes, ces situations où les militaires se servent eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas de solde suffisante pour survivre et pour nourrir leur famille. Vous avez conseillé de nouveaux gouvernements dans les affaires. Si vous deviez aujourd'hui conseiller un gouvernement pour ce qui est des moyens de la défense et de la répartition de ces moyens, et qu'est-ce que vous conseilleriez à ces gouvernements?
Déjà, je dirais qu'il faut mettre suffisamment de moyens pour la formation, le renforcement des capacités de toutes ces personnes qui vont rejoindre les différentes armées dans les pays, et surtout le plus important, que ces personnes soient aient des avantages financiers, qu'ils aient leurs assurances maladie, qu'ils aient un logement adéquat, que leurs enfants puissent avoir accès à des écoles, etc., avec bien évidemment des réductions, etc., comme on voit aux États-Unis, quand vous êtes militaire, vous avez une carte, tout est réduit partout où vous avez des réductions. Vous avez des réductions, que ce soit dans des supermarchés, et rendre aux militaires cette fierté-là. Parce qu'en réalité, ils protègent le pays contre les agressions extérieures, mais aussi contre les agressions intérieures. Et aussi, ils permettent de réguler, justement, d'avoir cette paix, de la paix que nous vivons tous, que nous aimons tous. Et ces personnes-là doivent être rémunérées de manière conséquente. Et la formation et l'éthique, les études d'éducation, l'éducation civique aussi est très, très importante. Et il n'y a pas de place dans l'armée pour les délinquants. Alors, il y a de la place dans l'armée pour des gens qui aiment leur patrie et qui connaissent le rôle que l'armée a joué pour le pays.
Alors, on va écouter à présent un commentaire pour terminer de Sarah Ntamboué. Elle est donc coordonnatrice de Change Your World à Goma.
La présence de plusieurs femmes dans une armée, malheureusement, ne devait pas partir d'une quelconque motivation, mais du potentiel et de l'attirance de la personne, qu'elle soit homme ou femme. Moi, je pense de métiers tels que l'armée, l'enseignement, la médecine, devait être vraiment quelque chose de passionnant pour une personne. Et aujourd'hui, malheureusement, on a des femmes passionnées mais qui savent pas se positionner parce que les cultures, les lois de certains pays ne prônent pas. Mais moi, je suis d'avis que toutes les femmes passionnées par ces métiers devraient se sentir libres d'intégrer l'armée, passion, femme ou homme, les mieux que nos lois et que nos cultures encouragent le potentiel selon l'attirance, la passion qui présente la personne pour nous amener à des résolutions plus concrètes et même, pourquoi pas, à une paix durable, hein, parce que les femmes sont porteuses de paix et de résilience en elles naturellement.
Et voilà pour terminer, donc c'était Sarah Ntamboué hein, qui est à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Et finalement, hein, Sarah, qui rejoint ce que vous avez dit un petit peu tout le long de cette émission, hein, Leila Ndiaye, que finalement c'est une vocation, hein, vocation, ça rime aussi avec passion, n'est-ce pas? On parlait donc des femmes dans les armées nationales. Du service militaire obligatoire ou non. Donc avec vous c'était Nathalie Barge, à la production c'était Firmin Max Koyaweda. Merci beaucoup Leila Ndiaye, je rappelle que vous êtes présidente de LND Global Network, experte en affaires africaines. Merci beaucoup pour votre participation. À très bientôt et bonne soirée pour la suite de nos programmes sur voafrique.com. We'll be right back.